création on air. On air. On air. Creation on air.
En 1920, paraît un roman d'anticipation, Les mains d'Orlac, par Maurice Renard. Il présente un chirurgien d'avant-garde greffant les mains d'un meurtrier exécuté pour sauver celles d'un jeune pianiste mutilé, Stéphane Orlac. Ce texte hante Ludovic Chavarot, alors qu'aujourd'hui, ces greffes existent réellement. Nous ouvrons ce soir avec vous le livre mystérieux, fragile et infini du corps pour interroger l'acte de greffe comme acte de création et d'entre-dévoration, chirurgicalement, musicalement, poétiquement. Avec la beauté mêlée des ondes Marteneau d'Augustin Viard et du piano d'Evgeny Galperin. Les mains d'Orlac, Ludovic Chavarot, Céline Terce, création on air.
Dans le noir, un chaos formidable se devinait. Des formes dures dressaient la silhouette d'un monceau de ferraille. Des lanternes, pauvres étoiles jaunes, circulaient de ci, de là. On voyait même errer des lampes d'intérieur que le vent soufflait méchamment. Et toujours des gens qui couraient. Le cuivre des casques jetait des feux. Aux lueurs du brasier que des pompiers noyaient, deux locomotives cabrées, tordues, télescopées, se pénétraient l'une l'autre. Et derrière les cris, les appels, les hurlements, les pleurs, les ordres anxieux, les réponses affolées qui composaient l'affreuse clameur infernale, on sentait avec épouvante un silence profond, comme la mort.
Les mains d'Orlac, ou quand la chair prend âme.
C'est un film qui a cassé. La colure s'est défaite, le projectionniste s'est endormi, la salle est vide. Là-haut dans la cabine, le ruban de celluloïde continue à se dérouler. Il tombe au sol, y dépose ses spires infiniment.
Raoul Ruiz, que j'ai rencontré un jour dans un restaurant chinois, je le connaissais un petit peu d'avant, mais on se voyait de façon sporadique, et est venu vers moi et m'a dit « Je veux te proposer un rôle ». Celui du docteur détraqué fou des mains d'Orlac, que je vais faire en remake. Et j'ai regardé avec les yeux un peu écarquillés.
Jean-Jacques Schulle.
Parce que.
Écrivain.
Ce docteur fou, le docteur Gogol, dans le livre, a l'idée de greffer les mains d'un condamné à mort lorsqu'il sera exécuté sur un pianiste virtuose qui vient de les perdre dans un accident de train. Et je me suis demandé là, et par la suite d'ailleurs, ce qui en moi pouvait lui faire penser que j'étais apte à jouer un rôle pareil. C'est un petit peu le problème du mal, enfin le problème, si l'on veut, de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et aussi du problème, pour moi, en ce qui me concerne, des greffes, puisqu'il se trouve que j'aime bien écrire en empruntant beaucoup à droite et à gauche. J'ai parfois l'impression que l'esprit d'un écrivain vient un petit peu sous ma plume. Là, on peut dire que je vis avec les fantômes.
Promenant à bout de bras sa lampe mourante, cette espèce de braise froide, Madame Orlac se mit à longer les décombres où les sauveteurs s'activaient par groupes. Démasqué par le déblaiement, surgit, immobile, un être fantomal, resté debout, mais affaissé. Sa cuisse droite faisait un angle inquiétant. Soutenu par l'épaule à quelques ferrures, les bras tordus et la tête bizarrement déjetée, il semblait se livrer à une dislocation d'homme-serpent. Ses paupières étaient closes et son sang ruisselait. Ses deux bras et sa jambe droite jouaient en tous sens. Derrière l'oreille gauche se creusait un affreux renfoncement où les cheveux noirs se mouillaient comme une éponge.
J'ai vu ces fameux films du cinéma allemand des années 20-30, ce qu'on a appelé l'écran démoniaque. Et par ce cinéma-là, j'ai été marqué à jamais. Ambiance trouble, ombre, climat hypnotique. Les mains d'Orlac. Je me rappelais avec précision certaines scènes. Une jeune et belle actrice de cinéma, femme d'un pianiste virtuose, dont les mains sont coupées dans un accident de train. Un serial killer qui tue ses victimes en leur lançant des couteaux.
J'ai regardé plusieurs films comme ça, gothiques, des films horrifiques, parce que ça provoque la terreur dès qu'on touche à l'intégrité du corps, sans songer, a priori, à celle de la conscience, de la psyché, disons. Et pourtant, c'est là qu'est l'enjeu. La question, peut-être la première, c'est l'identité. C'est quoi l'identité? Et qu'est-ce que surtout ça n'est pas? L'identité, c'est un concept négatif.
Hubert Haddad, écrivain.
Au fond, nulle part on peut saisir et conceptualiser et penser l'identité. Cependant, partout, à tout moment, eh bien, chacun revendique une identité. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Et évidemment, avec la greffe, la transplantation, à ce niveau, c'est plus une greffe, c'est une transplantation. La question se pose de manière cruciale. Qu'est-ce que devient l'humain? Dans ce qu'il revendique, comme ça, d'abord c'est quoi l'humain? Et qu'est-ce que devient l'humain dans cette étrange recomposition, dissociation, transformation, métamorphose?
Mais que se passe-t-il dans cette mystérieuse ville?
La clinique, blanc palais, s'illumina. Une infirmière introduisit Yvonne dans un hall élégant et simple, qui, à force de blancheur, semblait taillé au sein d'une banquise.
Parmi les nouvelles espérances données à l'homme, la plus grande n'est-elle pas de retrouver une part de sa jeunesse physique? Cette espérance, l'hétérogreffe nous l'apporte. Mais l'hétérogreffe, c'est-à-dire la transplantation sur un être humain de tissus vivants ou d'organes, prélevé chez un autre.
Le docteur Gogol était l'as de la chirurgie. Sa célébrité s'étendait sur tout le globe. Chacun connaissait la vie de ce chirurgien génial, révélé à l'admiration du monde par sa lutte triomphale contre les plus affreux ravages des engins meurtriers.
C'était possible jusqu'ici que lorsqu'on se trouvait en présence de deux individus présentant une parfaite identité biologique,
Mais enfin, docteur, ces tours de force, ces opérations de passe-passe, c'est très bien. Mais j'ai entendu parler d'expérience, d'audace, de choses étranges.
Vous savez, les champs de bataille, au Moyen-Âge, où il y avait des barbiers, lorsqu'un nez est tranché, que faire ? Que va faire le barbier ? De temps en temps, il avait l'idée de reprendre le nez de celui qui ne l'avait plus et de lui reposer sur le visage. Puis de lui coller, quoi, de lui remettre, et puis de mettre un pansement. Et parfois, eh bien, tout ça marchait. Le nez, eh bien, revivait sur ce visage. C'est l'autogreffe. D'autres prenaient un bras, puis ils allaient le coller sur... ça marchait pas. Et ça, ça a duré jusqu'à un autre prix Nobel, Alexis Carrel, qui a une réputation un peu... Bon, on parle du médecin, qui s'amusait à greffer des reins de porc ou de chèvre sur des femmes en insuffisance rénale. Et elles mouraient toutes. Et la science fonctionne avec les échecs, surtout dans le domaine de la chirurgie. Et elles mouraient toutes, donc bon, il y a un problème. On a petit à petit compris qu'on ne pouvait pas greffer n'importe quoi sur n'importe qui. Et puis petit à petit, on approchait du but, quoi, du secret.
C'est un film où la musique est rayée, craquelée. Le temps s'y marque.
Il s'agit donc pour nous de modifier biologiquement la nature de l'organisme destiné à recevoir des tissus vivants étrangers. Une de nos méthodes consiste à détruire, au moyen de fortes radiations de rayons X, les anticorps qui font obstacle à l'hétérogreffe. Seulement ces radiations doivent pour cela être portées à une intensité telle que l'être humain n'y survit pas. On pratique alors l'exsanguination. On vide de son sang jusqu'à la dernière goutte le sujet irradié.
Yvonne est pâle comme la pierre. Autour d'elle, tout semble osciller, pencher, s'incliner. Les mains d'Orlac. À ses mains. Ses belles mains blanches, fines, souples, si prestes et si nerveuses, ses mains virtuoses, les deux fées danseuses du clavier, dispensatrices de joie, de gloire et d'abondance. Ah, s'il doit rester mutilé, plutôt que frappé de la sorte, ne vaudrait-il pas mieux 100 fois qu'il soit aveugle, comme tant de musiciens, qu'il soit sourd au besoin, comme Beethoven ou Smetana. Mais ses mains? Non, non pas cela, il en mourrait. Il ne faut pas. Elle se jette sur le téléphone.
Une jeune fille aux paupières mauves, aux ongles vernis noirs, déshabille un mannequin lentement, avec précaution. Un mannequin dont la tête dévissée est posée par terre à la renverse, dont le bras gauche est tenu par le bras droit de la jeune fille, qui enlève les bas en les déroulant, puis dévisse le tronc.
Jean Dausset. Nobel, il a découvert la moyen de la greffe soit effective, sans rejet. Et simplement, il a découvert ce qu'on ignorait, c'est tellement étrange qu'on puisse ignorer cela, que le corps, lui, a une identité jusque dans ses moindres cellules. Il y a des marqueurs, et qu'on ne peut pas introduire dans le corps n'importe quoi, n'importe qui, parce qu'il y a un phénomène massif de rejet. Avec les leucocytes, avec tout le système immunitaire. C'est un peu comme une ruche, ou bien comme une fourmilière. Vous introduisez là un insecte, immédiatement, toute la ruche ou toute la termitière va se mettre en mouvement pour exclure, pour rejeter cet intrus. Eh bien, le corps fonctionne exactement de cette manière. Mais il fallait trouver le comment et le pourquoi. Ce qu'a fait Jean Dausset, il a eu le prix Nobel pour cela. Ça ouvrait à toutes les techniques pour qu'il n'y ait pas de rejet. Ça, on a commencé avec les irradiations totales. Évidemment, les résultats sont efficaces, mais dangereuses. Et aujourd'hui, les immunosuppresseurs, c'est pas rien. Surtout dans le cas d'un transplanté total.
Le chirurgien toucha l'un des contacts du petit tableau sur son bureau. Il y a eu un déclic, une porte s'ouvrit, donnant passage à la secrétaire majeure de Gogol et laissant voir le mot « Entrée » écrit en lettres incandescentes. La secrétaire déposa sur le bureau une carte rose, côté LB27352. « Tenez, madame, reprit le chirurgien, voilà dans quel état se trouvaient les mains de Monsieur Orlac, lorsque vous m'avez fait l'honneur de me confier sa vie. Lisez vous-même. »
Main gauche d'abord. Fracture du carpe et du métacarpe. Deux phalanges et deux phalangines. Rupture d'extenseur et de fléchisseur. Sectionnement du supinateur. Plaie contuse à l'éminence ténard. Écrasement du court abducteur. Des lombricaux et des interosseux. Fléboragie de la salvatelle. Ecchymose multiple. Le rouleau continue à se dérouler, mais ne s'enroule plus autour du corps qu'en long serpentin qui tombe au sol sans fin.
Alors, la communauté scientifique prend acte de la réussite de la première transplantation d'une main réalisée en France en 1998.
Bernard de Vauchel, chirurgien.
Dans le service de mon collègue transplanteur Jean-Michel Dubernard, parce qu'à l'époque on considérait que pour des raisons immunologiques, une transplantation contenant du tissu cutané était vouée inéluctablement à l'échec, pour des raisons de rejet. Autrement dit, les drogues immunosuppressives qu'on utilise n'étaient pas capables d'empêcher le rejet. Et puis il a osé. Et je pense que la première transgression, si on veut parler de transgression, ou la personne qui a véritablement osé, c'est cette première transplantation de main, sur laquelle on pourrait revenir parce que psychologiquement ça n'a pas été une réussite pour le patient, mais au moins ça a été le tremplin de la première transplantation des deux mains qui, elle, a été réalisée en l'an 2000 et qui, elle, est un succès et est encore un succès aujourd'hui à tous égards.
La transgression, c'est simplement le fait de penser à une solution chirurgicale pour un problème.
François de la Porte, philosophe.
Et surtout de passer à l'acte, évidemment en pensant que la solution est à portée de main. Elle peut se traduire par un succès, mais en sachant tout aussi bien qu'elle peut aussi se traduire par un échec. Autrement dit, la transgression n'apparaît que par rapport à une forme de conservatisme médical, qui doit d'abord obéir au principe de précaution, fait que toute innovation, toute nouveauté, toute invention est par avance barrée.
Tout corps est une citation. Mais de quoi ? Le modèle est congédié. On est au bord du vide.
Vous savez, l'argument est récurrent dans l'histoire de la médecine. Quand il y a eu les premières transfusions au XVIIe siècle, les premières transfusions de sang, peu importe que ce soit du sang d'un animal chez l'homme, il y a l'idée de soigner, de revivifier un organisme par transfusion. On sait aujourd'hui l'importance de la transfusion. Bon, ben, il a fallu, dès le départ, si vous voulez, c'est une idée qui peut apparaître comme transgressive. En tout cas, elle apparaissait comme transgressive aux yeux de ceux qui s'opposaient à ce genre d'acte. Donc, c'est effectivement prendre un risque. Et quand on prend un risque, il y a immédiatement la communauté qui vous tombe dessus avec toute une série d'arguments. On est confronté là à une forme d'hypocratisme où la meilleure des choses à faire, c'est de laisser faire la nature et de ne pas intervenir.
Je fais une greffe, monsieur. Une greffe de rosier. Je pratique dans ce rosier sauvage un églantier âgé de 2 ans, une fente en croix ou plutôt en T dans l'écorce, à l'aide de ce petit instrument tranchant approprié. C'est tout un art, car il ne faut pas entailler le bois en dessous. Maintenant, j'ai ici dans cette petite boîte un œil, c'est-à-dire un bourgeon à feuilles prélevé sur ce beau rosier jaune et rouge. C'est une de mes créations. Il est enregistré sous mon nom. C'est le rosier Joseph Cyr, et personne ne peut le reproduire sans mon autorisation. Il a obtenu un prix au dernier concours floriste.
Transgresser, c'est étymologiquement passer une étape, n'est-ce pas? C'est aller passer une frontière, dépasser un seuil pour aller au-delà. Il y a, en arrière-pensée, dans le mot transgression, une question d'interdit, n'est-ce pas? Donc, on s'oppose à un interdit, on le lève quelque part. Mais on ne pouvait le lever qu'en faisant. C'est assez clair. Enfin, je veux dire que dès lors qu'on pensait qu'il était infondé, en fait, il fallait bloquer la porte et mettre le pied dedans. C'est ce qu'on a fait.
Sauver ses mains, Gogol médite. Lui qui songeait à les couper, le voilà perplexe. Il faudrait sur les poignets, à la place de ses mains broyées, greffer deux mains neuves, saines, coupées à un vivant ou bien à un mort qui vient de mourir. Ou bien encore conserver un bocal, baignant dans un liquide physiologique de Rintgen ou autre. Oui, mais où dénicher un vivant qui consente à vendre ses mains? Quant au magasin plein de membres de réserve, vitrines bien garnies où les amputés viendront choisir des mains ou des pieds de rechange, comme on choisit des mitaines ou des escarpins, cela, c'est encore dans le domaine des temps à venir. Gogol s'arrête donc à la pensée d'un mort, un mort récent, un mort qui soit mort bien portant. Chut ! Où trouver ça ? En déjeunant, le professeur Gogol lit dans les journaux que le lendemain, à l'aube, l'assassin Vasseur sera guillotiné.
Les mains d'Orlac. Ce titre m'est apparu pour la première fois quand j'ai lu, je devais avoir 20 ans, Au-dessous du volcan, le roman de Malcolm Lowry. Yvonne, ancienne actrice, encore jeune, vient d'arriver en avion dans une petite ville mexicaine. 2000 mètres au-dessus de la mer, parsemée d'églises et de piscines, pour retrouver le consul, son amant, après une longue séparation. Yvonne, plus tard, dans la journée, passe à cheval devant une affiche fixée à un arbre. « Las manos de Orlac » con Peter Lorre. Le demi-frère du consul qui l'accompagne dans sa promenade lui dit « Je pense avoir vu le film avec Peter Lorre quelque part. C'est un grand acteur, mais le film est ignoble. C'est l'histoire d'un pianiste qui a un sentiment de culpabilité parce qu'il pense que ses mains sont celles d'un meurtrier, ou je ne sais quoi, et ne cesse de les laver du sang versé. Peut-être sont-elles vraiment un meurtrier, mais j'ai oublié. »
Entre les mains d'Orlac gît un volcan. Mains d'Orlac. Mains dont les doigts retiennent le sang sur l'affiche à jamais placardée entre les pages d'au-dessous du volcan. Entre rêves de strangulation et veines étreintes. Le visage arrêté de Peter Lorre, comme suspendu au-dessus des protagonistes. Et Lowry de nous dire des mains et d'Orlac. Que c'est dans les mains que vibre aussi l'oracle, et que tout homme a les mains d'un autre, à l'instar d'un Rimbaud, déplorant de n'avoir pas la sienne. Christophe Clarot.
Le ruban se dévide et vient s'enrouler lentement autour d'elle. Il finit par l'envelopper entièrement à la façon d'une momie couverte de bandelettes.
Nous avons tous le corps d'un autre, de notre père, le corps de notre... Nous vivons dramatiquement nous aussi notre être là, puis notre rapport simple à l'existence charnelle, parce que c'est quoi le moi ? Qu'est-ce que c'est que cette légende ? Évidemment, ça rejoint les mythes. On pense d'abord à Adam, qui est créé avec la poussière et le verbe, et puis ensuite à tous les mythes déclinés du grand mythe de la fondation, c'est-à-dire le golem, Frankenstein. Et Marie Shelley, elle était dans ce milieu comme ça, romantique, dans un temps de crise, pareil au nôtre. Elle voulait comprendre ce que pouvait être le fait d'exister de manière fondamentale. Et elle a imaginé ce docteur Frankenstein, ce chirurgien, qui va faire de toutes pièces, avec des morceaux épars, une créature. On n'en est pas loin, finalement, avec les rêveries des scientifiques, de ce chirurgien.
Donc on peut transplanter une partie du corps contenant de la peau, des muscles, et très vite, dans la communauté scientifique, on parle de possibles transplantations de visage, notamment aux États-Unis, avec cette arrière-pensée que cette transplantation vaut pour resurfacer, redonner un visage normal, essentiellement par exemple aux patients qui ont été brûlés. Il y a une femme chirurgien qui fait de la recherche et qui, quand on reprend l'histoire par exemple de la transplantation cardiaque, on a à peu près le même schéma, passe son temps à opérer des rats et à leur faire des transplantations d'une partie ou de toute partie de la face du rat. Et donc, à Paris, il y a eu dès 2002, mon collègue Henri Mondor qui dépose une demande tout à fait officielle auprès du Comité consultatif national d'éthique. Et quand on lit le rapport du Comité consultatif national, l'avis est nettement défavorable. Il y a même cette phrase qui m'apparaît tout à fait intéressante. Il est précisé que ne doit absolument pas être utilisé le mot « greffe de visage ». Alors je crois que la question qui est intéressante à poser, c'est qu'est-ce qu'un défiguré ? Est-ce qu'un défiguré a encore un visage ? Ou pas. Est-ce que l'allotransplantation de tissu composite, puisque c'est le terme technique au niveau de la face, est-elle une véritable greffe de visage ?
Pourquoi les miroirs de cette étrange demeure sont-ils masqués de noir ? Que cherche-t-elle ? Le reflet de ses yeux, de son visage.
Cet avis est défavorable, mais il termine avec cette phrase assez curieuse, excepté peut-être pour une perte de substance qui concernerait le triangle nez, lèvres, menton, parce que nous ne savons pas les reconstruire. Imaginez qu'avant qu'elle ne soit réalisée en 2005, il y a eu plus de 200 publications dans des revues scientifiques sur la greffe possible de visage, dont 190 d'entre elles concernent l'aspect éthique. Alors, est-ce bien, n'est-ce pas bien ? A-t-on le droit de ? Qu'est-ce qui va se passer ? Peut-on supporter le visage d'un autre ? Enfin bon, vous voyez toutes ces questions qui sont sous-jacentes à cela. De ces espèces de questions purement, conceptuelles. Enfin, on est là dans l'ordre de l'imaginaire, d'un imaginaire, j'allais dire, davantage d'un impensable.
Quand on parle du visage d'un mort, on se trompe. C'est un mort n'a pas de visage. C'est une vieille histoire, ça. Aristote le disait déjà, un corps mort d'un homme peut être appelé un homme seulement par homonymie, c'est une représentation ou une image de l'homme, mais il n'est qu'une chose. Donc là, on est dans l'ordre des croyances. On transporte un tissu, un organe, mais qui en elle-même n'a pas de vie au moment où elle est prélevée, puisqu'elle est prélevée sur un corps peut-être en état de vie végétative, mais bon, voilà, même pas.
Donc, les fantasmes vont plutôt dans le sens de c'est pas seulement un visage, c'est pas seulement une main, c'est quelque chose de l'âme de celui qui donne ses mains ou qui donne son visage, ou à qui on prend ses mains ou à qui on prend son visage, qui vient avec son cœur.
Les paupières et cernes inférieures comme cousues, le nez comme cassé, la bouche comme peinte ou greffée.
Nous sommes en mai 2005 et voilà qu'un matin arrive dans le service que j'anime une personne qui nous est transférée de Valenciennes. Question, pourquoi Valenciennes-Amiens alors que Lille est plus près, hein, mais bref, elle nous est transférée avec un énorme bandage et on nous annonce une morsure de chien. Très bien, on défait le bandage et là, je découvre avec toute l'équipe du service quelqu'un à qui il manque le nez, les lèvres et le menton. Aussitôt, vous voyez, on est là dans l'ordre de quelque chose qui, j'utilise le mot, mais enfin qui relèverait de la destinée, quoi. Enfin, ça s'est imposé à nous, il n'y a pas eu de réflexion. C'était évident que cette femme qui arrivait, la seule façon de pouvoir lui rendre service, c'était d'oser la transplantation. Et c'est venu tout de suite.
Le front dans les mains, elle employait ses puissances imaginatives à se transporter dans la salle d'opération. Mais sous l'empire de l'angoisse, des visions abracadabrantes lui étaient fournies. Elle voyait un crâne ouvert comme une marmite, une cervelle sanguinolente, pareille à celle qui baigne dans des récipients culinaires.
Story.
Ça a été un petit peu comme voilà, l'illumination sur le chemin de Damas, enfin quelque chose comme ça. Quand je parle d'illumination, c'est parce que le bloc opératoire a une lumière particulière aussi. Vous savez, c'est le bloc opératoire, c'est... Il y a des gens qui ont écrit des choses très 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 belles. Il y a une ethnologue qui a écrit sur la communitas, comme elle dit, au sein du bloc opératoire, où vous avez... Voilà, c'est comme un temple avec un autel, n'est-ce pas, qui est au milieu. Il y a tout un cérémonial pour rentrer dedans. Et puis, il y a les vestales, hein, qui sont les infirmières qui travaillent à l'intérieur et qui sont partie intégrante du bloc opératoire. Et puis, il y a le lieu du sacrifice, entre guillemets. Enfin, c'est une métaphore où toute la lumière des cialitiques, est concentrée dessus. Et donc, on a, quand on arrive de l'extérieur et qu'on voit cette lumière concentrée autour du champ opératoire, hein, de l'endroit où opère le chirurgien, il y a là quelque chose d'illuminant, enfin, comme une forme d'éblouissement.
Elle voyait des pinces de serrurier, des vilebrequins de menuisier, des coutelas de sacrificateurs.
Maintenant, regardez bien. Avec mon outil, je soulève délicatement l'écorce à l'endroit incisé et j'y insère l'œil de mon beau rosier. C'est tout un art de choisir cet œil et de le tailler comme il faut. Voilà, c'est fait. L'écorce se remet en place, emprisonnant la base de l'œil. J'applique un peu de mastic spécial sur la plaie et je ligature le tout au moyen d'un fil de raffia. Ça s'appelle la greffe en écusson. Je n'ai plus qu'à attendre que le greffon se développe et donne un nouveau rosier identique à ma création.
Nous, ce qui nous importait, d'abord c'était d'avoir du tissu vivant. Ça, c'était important, donc il fallait très vite repérer les vaisseaux nourriciers pour être sûr que l'on puisse rebrancher les artères et les veines. Bon. Et puis, il fallait que l'on restaure les fonctions. Or, quelle est la première fonction de la peau du visage? C'est d'avoir une sensibilité. Il faut que vous sentiez. Ça suppose donc que l'on recouse les nerfs sensitifs.
Gogol, en blouse blanche, mitron au bras de boucher, écartait, taraudait, taillait avec une sauvage allégresse, prélevant sur un animal ligoté des gouttes de liquide ou des fragments de matière cérébrale qu'il incorporait au cerveau de Stephen.
Et qu'on écrive, non, comme on coud une robe, c'est le Proust, ni comme une fille enlève sa robe, c'est Bataille, Mais comme on la met à plat, on la prive de toute profondeur, de toute épaisseur, de tout volume, et on voit surtout la façon dont elle est faite, ses empiècements, ses articulations, ses doublures, ses espacements, son entoilement, ses coutures, sa texture. Et il importe peu alors que la manche soit à la place de la jambe ou à l'envers, j'essaye d'écrire un livre cousu de fil blanc, et dont les mots, vides de sens, tremblent, ainsi quand ça bouge un peu dans le formol.
Elle tombe. C'est là que, crachant sur sa limite, elle va au-delà d'elle-même.
Pierre Mertens raconte dans son roman biographique comment il est complètement impressionné par les séances de dissection au laboratoire d'anatomie. Il parle de ses viscères et des couleurs des viscères, de la lumière des viscères. Vous savez, comment peut-on trouver de la beauté dans ce qui pourrait constituer, pour les uns ou pour les autres, une espèce d'horreur ?
Lorsque je regarde ma table de travail, m'apparaît une table de dissection. Ciseaux, agrafeuses, cutters, roller pilote, TechniPoint V5, sa recharge effilée comme une seringue et le réservoir à encre transparent à graduation millimétrique. Citation, emprunt à d'autres livres, montage incessant, greffe, incision, injection, découpes et sutures, même s'il ne s'agit que de mots. Écrire un livre, plutôt le fabriquer, en me livrant à une opération comme le docteur Frankenstein sur sa créature.
Galatea. The face of all the world is changed, I think, since first I heard the footsteps of thy soul. Guess now who holds thee. Death, I said, but there, a silver answer rang.
Effectivement, il y a une immense beauté dans la structure même du corps humain. Les premiers anatomistes, même Galien le disait, ils travaillaient sur les animaux. C'est un travail qui est, que ce soit l'homme ou l'animal, c'est un travail à la gloire de Dieu. C'est apercevoir, voir l'intelligence divine dans les œuvres de la création. Mais je ne peux pas vous en dire plus, mais je le comprends qu'on puisse le percevoir encore plus quand on peut soi-même contribuer, si vous voulez, à recoudre, pas seulement à recoudre, mais à finement réparer, etc. C'était un très beau métier.
Je commencerai après le dîner. Mais cette fois, il faut que je prélève un greffon plus large. D'une seule pièce. Et sans coupure.
Dans Les yeux sans visage, il y a une sorte de dégantement, n'est-ce pas, de la peau du visage. Alors effectivement, on procède à peu près de la même façon, sauf qu'on n'est pas là comme on fait un scalp, on est là dans une dissection extrêmement minutieuse. Et puis, la grande différence, c'est celle d'une image, qui est impressionnante parce qu'on voit le sang qui coule sous le bistouri, à une époque où on opérait comme cela, alors qu'aujourd'hui, je ne dis pas que les choses sont exsangues, mais les choses sont faites de façon beaucoup plus propre et avec beaucoup moins de saignement. Mais c'est le même bistouri qui effracte la peau, qui suscite le saignement, que nous on coagule tout de suite, mais derrière il y a sous la peau cette dissection profonde de ce monde merveilleux qu'est le visage à sa face profonde une fois la peau retirée.
Thank you.
Pourquoi laissait-on s'égoutter la cire brûlante d'une chandelle sur son visage? On l'avait coupé en deux sur le plateau noir d'une sorte de piano à queue éclairé par deux bougeoirs. Et la panique de ne plus savoir dans quelle partie du corps s'était réfugiée sa conscience lui arracha un cri inaudible, autant qu'insituable. Corps désirable. Hubert Haddad.
Monsieur Orlac, madame, ne va ni mieux ni plus mal. Il a bien supporté la première intervention, mais toujours sans connaissance. Pour le moment, il est, si j'ose dire, imprégné de sérum. C'est une fleur coupée dans un vase plein d'eau. Une fleur qu'il s'agit de replanter. Nous en sommes là.
Ce pacte, c'est celui de la normalité aussi, hein, et puis de la peur d'être rejeté, et du désir de retrouver une intégrité physique. Mon personnage, il lui arrive cela. On lui greffe le corps d'un étranger. Et qu'est-ce qu'il va faire de cet étranger qui lui prend toute sa vie? Il va devoir négocier quelque chose avec lui, sa survie, et essayer peut-être de trouver une harmonie, de savoir qui il est.
Depuis que Stephen est entré en convalescence, il ne pense qu'à ses mains. Il ne dit rien, il n'en parle jamais. Il est très malheureux, c'est sûr. Une force mystérieuse, l'obscur qui nous porte tous à préciser nos douleurs, le pousse vers le salon. Là, le grand piano à queue dort son sommeil d'eau noire, dans un silence qui fait penser au mutisme d'une sirène. Il s'approcha du silencieux cercueil qui contenait en puissance la musique tout entière. Il en caressa comme la robe d'un pur sang bébrun, la laque lustrée. Quelque part, une verrerie se brise. Stephen a refermé le piano comme une bière sur un cadavre bien aimé.
La mémoire du corps va commencer à le travailler. Sa propre mémoire va un peu défaillir. Et ce grand trouble qu'est la psyché et où la conscience essaye de garder maîtrise, eh bien, va évidemment, dans le cas d'une transplantation, être bouleversé. Et là, j'ai été très interpellé par ce chirurgien, ce neurochirurgien italien, Sergio Canavero, qui a lancé comme ça cette aventure de la transplantation totale. C'est un homme très compétent, ce n'est pas n'importe qui, c'est réellement une éminence dans son domaine. Mais voilà, cette année, il l'a promis pour 2016, il devrait pratiquer la transplantation d'un corps sur une tête. C'est simple, quand on va greffer des mains et un visage, les mains et le visage, il reste quand même une entité, il reste une présence maximum avec le cerveau et puis le reste du corps. Tandis que là, non. C'est un corps qu'on va trouver en état de mort cérébrale après un accident dans l'heure qui précédait quasiment. Parce que ça ne peut pas se faire autrement. Et sur une tête qui attend cette transplantation pour des raisons ou de survie ou de confort ou les deux. Est-ce que ça va réussir? Peut-être pas dans l'immédiat, mais ça réussira forcément un jour.
Je ne suis qu'un tracé vide. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. N'importe qui. Vous.
Autant le chirurgien, quand il suture un vaisseau, artère ou une veine, il voit tout de suite le résultat, c'est le passage d'un flux sanguin, il le voit à travers la coloration de la peau, il le voit à travers également des phénomènes qui sont tout à fait passionnants et intéressants, c'est-à-dire qu'on a une restauration automatique des fonctions végétatives de la peau. C'est-à-dire que, selon que vous avez froid ou que vous avez chaud, la peau pâlit ou la peau rougit, les poils repoussent spontanément chez l'homme. Mais la différence, c'est que quand on suture un nerf, en le mettant bout à bout, alors certes, il y a des phénomènes de dégénérescence, puis de repousse axonale, mais on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Et on ne sait pas très bien si on va pouvoir restaurer la totalité d'une fonction. Et donc on accompagne. Et on ne maîtrise pas cette restauration de fonction.
Le studio devint la chambre des mains. Il y installa les deux machines électriques, le clavier silencieux, tout l'attirail physique et chimique dont il s'était pourvu. Des livres spéciaux s'y entassèrent. Quand il sortait de là, pianotant des gammes sur tout ce qui se trouvait à sa portée, frappant ses mains, les giflant ou les agitant comme des marionnettes épileptiques, quand il sortait de là, c'était pour dépouiller sa correspondance, composée pour moitié de prospectus et de réclames vantant l'excellence d'un produit de beauté, la magie d'une pâte nouvelle, l'influence d'anneaux magnétiques, l'efficacité d'un électriseur inédit, le savoir d'une doctoresse iatralipte, les talents d'un triturateur xérotribiste, voire le discernement d'une chiromancienne. Les mains d'Orlac, qui ne gagnaient plus un centime, coûtaient des sommes folles.
Il faut bien comprendre que quand on greffe une main, au début, cette main est complètement insensible. Le patient la sent comme un morceau de bois au bout de son bras. Parce que les nerfs que l'on a réparés ont repoussé très lentement, de l'ordre, on estime, c'est assez variable, mais on estime de l'ordre de la repousse d'environ 1 mm par jour. Si l'on compte qu'il y a environ 300-350 mm entre la réparation du nerf et le bout des doigts, ça fait presque un an avant de retrouver une sensibilité de protection. C'est pas une sensibilité normale. Protection, c'est juste sentir si on touche ou pas un objet, sentir le chaud et froid, mais on ne reconnaît pas l'objet les yeux fermés. Donc il est assez compliqué au début de faire travailler une main qui n'a pas du tout de sensibilité. Et une greffe de main, c'est en moyenne deux ans, peut-être même trois ans de rééducation avant d'obtenir une fonction à peu près définitive, mais qui n'est pas une fonction d'une main normale. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a une phrase qu'a citée Emmanuel Kant, c'était « la main est la partie visible du cerveau ». C'est-à-dire que la main n'a aucune fonction autonome. C'est le cerveau qui décide de tout.
Mais imaginons maintenant que la greffe a lieu. C'est ce que j'ai fait dans mon roman. Il y a eu des tentatives antérieurement. Il y a un certain White qui a un Américain qui a tenté, bon, mais il n'a pas réussi, évidemment. La chose essentielle, c'est ressouder les moelles épinières. Canavero prétend que maintenant, il a les moyens. Mais quel est le greffon? C'est là que la question se pose. Et qu'est-ce qui va advenir dans notre civilisation fondée sur le dualisme? Il y a l'âme et la chair, la matière et l'esprit. Et donc, a priori, c'est la tête qui va accueillir un corps, et c'est la tête qui est déterminante. C'est le sujet, c'est la tête. Mais la tête, c'est 10% de la masse du corps, et elle sera nécessairement le greffon. C'est le corps qui aura les gamètes, ce seront les enfants du corps, pas de la tête. Là, le décapité, avec ce corps qui réagit à ses désirs, va vivre un drame, une aventure. Il va vouloir connaître l'identité de ce corps.
Donc au cours de mes pérégrinations dans le monde après la transplantation, je me retrouve en Chine et puis de la Chine je vole vers le Japon. Et c'est là où j'ai découvert, si vous voulez, qu'on avait franchi un interdit qui là-bas pose problème en termes de santé publique. C'est qu'un corps mort doit être totalement respecté et qu'aucune part du corps mort ne doit être prise. Si vous preniez une partie de ce corps mort et que vous le greffiez à quelqu'un d'autre, il porterait avec lui une part de la... de ce que vous voulez, enfin, appelons ça l'esprit, l'âme, n'importe quoi. Enfin, voilà, donc on ne pourra jamais s'empêcher de penser la chose. Alors la réalité, elle est... La masse, c'est comme le visage, quoi, c'est de la viande, quoi.
Fantasme. Le couteau et le piano.
Une faible lueur venait de la chambre. Yvonne sortit du lit et s'approcha de la porte, à pas de loup. Là, elle se raidit pour retenir une exclamation.
Stephen était agenouillé sur son lit dans l'attitude de la prostration. Sa veilleuse n'était pas allumée. Cependant, une source lumineuse éclairait la chambre d'une phosphorescence aquatique. C'était une tache pâle, suspendue au milieu de la pièce, juste en face de Stephen. Et cette tache, cette sorte de lune imprécise, vaguement ronde, était le siège de mouvement. Des formes confuses s'y déplaçaient. Une image animée naquit. On aurait dit la coupe d'un cerveau, laissant voir les idées du penseur. On aurait dit la projection du cerveau de Stephen, son cauchemar extériorisé.
La phosphorescence figure un piano à queue sur une estrade. Un homme est là, vêtu d'un frac de soirée, et c'est Stephen. Et sa physionomie est affreusement triste. Il salue l'auditoire invisible et s'assied devant le piano qu'il ouvre. Mais le clavier n'est pas composé de touches noires et blanches. Le clavier, maintenant, on n'aperçoit plus que lui. Lui et les mains du pianiste. Tout le reste a disparu. Les mains de Stephen sont posées sur les touches. Mais ces touches, vraiment, on ne sait ce que c'est. La main droite en arrache une. Un couteau à virole.
Maintenant, on ne voit plus que le couteau dans la main. Tout le reste a disparu. Le manche du couteau est marqué d'un X. La main de Stephen est crispée dessus. Maintenant, on ne voit plus que la lame du couteau. Elle semble suer goutte à goutte en liquide écarlate. La main disparaît. Le couteau reluit, se raccourcit, devient une équerre d'acier tranchante. Il s'encadre dans un étroit portique. Et dans la lunette de la guillotine, il y a une tête. Maintenant, on ne voit plus que la tête prise dans le carcan de bois. C'est la tête grimaçante de Stephen.
Le rêve, c'est cela, c'est dans nos rêves, nous sommes en quête. Tout ce qui advient en nous du fond des temps, à travers les générations, à travers les errances, les partages, les hybridations, est en jeu et vient nous questionner. Parce que dans une tête, chaque nuit, on crée des villes, des cathédrales, des choses incroyables. Et puis on sort de là, j'ai visité un pays admirable, j'ai vu des œuvres, j'ai croisé des... Mais ça vient de la tête de l'individu, ça vient de sa matière grise. Alors, quels seront les rêves du transplanté total ?
On cherche un petit peu le lieu de l'âme. Il y a les trois âmes de Platon, n'est-ce pas ? Et puis, c'est amusant d'ailleurs, parce qu'on les retrouve au niveau de l'extrémité céphalique, avec les tâches masticatoires, l'espace aérien, l'espace neurologique. Je pense qu'aujourd'hui, un bon nombre de philosophes s'interrogent. Si d'aventure, demain, ma main transplantée devient criminelle parce qu'elle a été prise un criminel, c'est que peut-être il y a eu chez moi, n'est-ce pas, une espèce de transformation de... Et si c'était la main d'un pianiste, vous vous rendez compte? Moi, je rêverais d'avoir la main gauche de ce... Quel pianiste qui avait joué le concerto pour la main gauche de Ravel, je ne sais plus le nom du pianiste en question, et qu'on me la transplante. Et demain, je vais... Vous vous rendez compte? Ce serait magnifique.
Le fantôme palpable. Ténèbres.
À cet instant, coup sur coup, deux chocs ébranlèrent la porte avec un bruit sec. Yvonne, qui épiait Stephen derrière la porte, recula d'abord, assez émue. Un troisième choc se produisit, d'une pierre lancée, semblait-il. Un quatrième choc, plus violent, secoua la menuiserie. Yvonne retint un cri et retira sa main. Au milieu de sa paume, une blessure saignait. Sans y prendre garde, elle risqua son œil au trou de la serrure. Stephen, échevelé, blême, l'air fou,
se tenait au fond de la chambrette. Un couteau à virole luisait sur le plat de sa main. Son bras, retiré en arrière, se détendit en avant et l'arme, pirouettant dans un éclair d'acier, vint se ficher vibrante non loin de la serrure. Elle vit encore Stephen, échoué sur une chaise, éclaté en sanglots.
On imagine un condamné certain de sa grâce et que le bourreau vient chercher. Le soleil s'était éclipsé pour longtemps.
On est tous schizoïdes, au demeurant. Sinon, nous n'aurions pas besoin de miroir. Mais dans le cas de cette transplantation, il y a là une probabilité, évidemment, de schizophrénie. Et le visage est mobile, le visage, c'est de l'eau. Et j'imagine que le transplanté, il sera dans l'obsession du visage perdu de ce corps qui vit avec lui. Ce visage, ce sera vraiment son double.
La greffe pouvait être aussi mal vécue, parce qu'elle a été mal vécue par un certain nombre de patients. Il y en a même un qui s'est recoupé les mains. Il a été greffé, ça a été un succès, et il s'est recoupé les mains. C'est compliqué.
Mais il n'y a pas de raison que les chirurgiens abandonnent le terrain. Ils iront jusqu'à l'ultime limite. Ce n'est pas de l'anticipation, c'est simplement ce qui nous attend. Et là, le décapité, il n'est plus qu'un être brisé. Ces interrogations, toutes ces implications, elles l'ont façonné. Et elles expliquent peut-être, en partie, ses motivations, son mouvement de survie au moment même de sa conscience, de son esprit, au moment même où il sait qu'il cède, qu'il n'est plus lui, puisque ça l'envahit du fond, il ne sait quelle terre, quel sang, quelle chair, quel lointain.
Les mains d'Orlac, ou quand la chair prend âme. Avec Jean-Jacques Schull, Bernard de Vauchel, Hubert Haddad, François Delaporte et Jean-Marc Claise. Extrait des mains d'Orlac de Maurice Renard, lu par Laetitia Spigarelli, Evgeny Galperine et Augustin Viard. Delphine Lemaire lisait des extraits de Telex numéro 1, de Rose Poussière et d'Entrée des fantômes de Jean-Jacques Schull. Jean-François Néolier lisait des extraits de Corps désirable de Hubert Haddad et de Greffe mortelle de Marc Agapit. Extrait de Mad Love de Karl Freund et des yeux sans visage de Georges Franju. Musique originale de Evgeny Galperine au piano et Augustin Viard aux ondes Marteneau. Attaché de production Inès De Bruyne. Coordination Irène Omeilienko. Prise de son et mixage Alain Joubert. Une émission de Ludovic Chavarro et Céline Terce. Remerciements à Manon Guibert et Auréa Aberry.
Demain, rendez-vous pour Poésie et ainsi de suite par Manou Farine. La semaine prochaine, dans Création en air, Guerre de 1914, Présence magnétique. Dans l'atelier de création radiophonique, Sauvage de Paris par Rodolphe Alexis et Lionel Quentin. Philippe Garbi, Les nuits de France Culture.